marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La géographie, c'est l'histoire dans l'espace et l'histoire, c'est la géographie dans le temps.
Le témoin de ce vendredi, Daniel Salnave, d'un côté et de l'autre de la France.
Cette admirable révolution, par qui nous sommes, n'est pas finie. C'est qu'elle dure encore. C'est que nous en sommes encore les acteurs. C'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis.
Dans l'Ouest, on est encore plus sensible qu'ailleurs à la fracture dont Clémenceau, ici interprété par Bruno Raffaelli, disait qu'elle ne cesserait de jouer en France. D'un côté, il y a le pays bleu, celui de la République, et de l'autre, le pays blanc, qui a pris fait et cause contre elle. Daniel Salnave a passé son enfance à la jointure des deux, dans le Maine-et-Loire. Une enfance rurale, ou plutôt, une enfance dans une école rurale. Ses parents étaient instituteurs publics à Savenières. Au début de 2017, elle revient dans son village. Pas seulement pour retrouver un vin incomparable, elle loue une petite maison et avec sa petite auto, elle parcourt le département qui lui apparaît fait de zones étanches. La géographie est la forme la plus durable de l'histoire. Le Segréen et les Mauges, qui donnèrent tant de troupes à l'armée catholique et royale de 1793, commencent à quelques kilomètres de Savenières. Partout des calvaires, des monuments commémoratifs d'une terrifiante guerre civile. Et cette question qui surgit, comment la République a-t-elle pu se livrer à de telles extrémités? Partout des églises romano-byzantines ou néo-gothiques dans cette région, le 19e a été un siècle de recharge sacrale. Il semble d'ailleurs à Daniel Salnave que le néoconservatisme dominant de nouveau dans l'église d'aujourd'hui n'a qu'une hâte, reprendre cette reconquête. Le père de Daniel Salnave enseigna aussi à Trélazé. Là, elle retrouve un autre monde. C'était autour de Mines d'Ardoise, un fief prolétarien. La municipalité n'a pas voulu ériger de monument aux morts après la guerre de 14 et elle a donné le nom d'un anarchiste catalan, Francisco Ferrer, à la place de l'église. À Trélazé, on était souvent au bord de la révolte. D'où cette question encore, pourquoi la République a-t-elle si peu offert de solutions sociales à l'inégalité? Les mémoires collectives sont puissantes. Chaque mémoire personnelle est un point de vue sur la mémoire collective. Celle de Daniel Salnave change avec ce voyage difficile. D'ailleurs, elle écrit « République » sans majuscule.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Daniel Salnave, bonjour.
Bonjour.
Le choix de la diffusion de cette émission peu de jours après le 1er mai est la conséquence du titre qu'on n'a pas encore donné de ce beau livre publié chez Gallimard, « L'églantine et le muguet ». On vous a offert d'ailleurs dans une émission de télévision, pour vous faire plaisir, une églantine blanche.
Oui, c'est très difficile de trouver des églantines rouges. On n'en cultive pratiquement plus, car l'églantine dont je parle était rouge.
Alors l'églantine rouge, c'était un signe qu'on utilisait dans les premiers 1er mai?
Oui, je suis remonté à cette affaire. Parce qu'à Trélazé, dont vous venez de parler, mon père et quelques-uns de ses collègues instituteurs, ainsi que des ouvriers des carrières, ont fondé, un peu avant le Front Populaire, un club de football qu'ils ont appelé l'Églantine. Tous les clubs de football étaient des sortes de patronages, étaient tenus par des curés en général, des curés bretons, qui étaient venus avec leurs ouailles, qui travaillaient dans les carrières. Donc ils font ce club, ils l'appellent l'Églantine. Moi ça ne m'avait pas particulièrement frappé. Et puis j'ai pris ce fil et j'ai tiré. Et j'ai découvert à ce moment-là que l'Églantine, c'est l'Églantine rouge, la fleur du mouvement socialiste depuis 1880. Barrès, quand il veut dire du mal des socialistes, les appelle les églantinards. Le mot en « art », c'est toujours péjoratif en français.
Et bon,
alors l'églantine, alors le muguet apparaît. 1900, un peu, il y a des muguets, quelquefois, des fleurs des clochettes du muguet, dans certaines manifestations du 1er mai. Mais arrive la Révolution nationale, c'est-à-dire la fin de la République, l'établissement de l'État français, le maréchal Pétain. En 1941, il décide de supprimer le 1er mai, qui est une fête ouvrière, révolutionnaire, et de la remplacer par la fête du travail. Travail, famille, patrie. Il faut un symbole pour la fête. Que va choisir le maréchal Pétain? Certainement pas l'églantine rouge des socialistes. Il va privilégier le muguet. pas seulement parce qu'il existait déjà, mais parce que le muguet, et le, par la symbolique du muguet, c'est la fleur du mois de mai, la fleur de la Vierge Marie. Et le maréchal Pétain vient de consacrer la France à la Vierge. Le 1er mai, le muguet a chassé l'églantine rouge des socialistes.
On a entendu en exergue Bruno Raffaelli au Vieux Colombier dans les séances de restitution de débats parlementaires que nous organisions tenir le rôle de Clémenceau face à des adversaires déchaînés. Nous sommes en 1891. Une pièce est jouée à la Comédie Française Thermidor qui, selon Clémenceau, ne donne pas une interprétation assez favorable du rôle des responsables du comité de salut public en 1793-94. Parmi les interrupteurs de Clémenceau, il y a le comte de Maillet, député du Maine-et-Loire. Voici ce que Clémenceau lui dit.
Messieurs, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou que cela nous choque, la Révolution française est un bloc.
Non ! C'est faux !
Un bloc dont on ne peut rien distraire parce que la vérité historique ne le permet pas. Est-ce que vous croyez qu'il dépend de la Chambre de diminuer ou d'augmenter le patrimoine de la Révolution française ? Ah, vous ne voulez pas du tribunal révolutionnaire ? Vous savez cependant dans quelles circonstances il a été fait ? Est-ce que vous ne savez pas où étaient les ancêtres de ces messieurs de la droite ?
Ils étaient à la frontière !
Oui, mais du mauvais côté de la frontière ! Avec les Prussiens, avec les Autrichiens, et ils marchaient contre la France.
Vous vous ménagez des succès faciles.
Et ceux qui n'étaient pas avec les armées étrangères, ceux qui n'étaient pas avec Brunswick, où étaient-ils? Ils étaient dans l'insurrection vendéenne.
C'est leur gloire. Ils se battaient contre des assassins.
Oui, et suivant le mot de Michelet, à l'heure où la France était aux frontières faisant face à l'ennemi, il lui plantait un poignard dans le dos.
Alors, c'est, dites-vous, une des raisons profondes de votre voyage dans votre région natale, Michel Salnave. Cherchez, on parle toujours dans le vocabulaire du jardinage, ce qu'était cette épine de la guerre de Vendée dans l'histoire de la République française. L'insurrection de 1793, elle avait lieu tout près, à quelques kilomètres, moins de 10 kilomètres de l'endroit où vos parents, instituteurs, tenaient sans doute un discours un peu comparable à celui de Clémenceau sur la Révolution.
C'est une épine qu'on ne peut pas arracher facilement. Et la phrase de Clémenceau, c'est un bloc. On peut l'interpréter dans les deux sens. Clémenceau dit, on n'a pas à trier. Séparer le tribunal révolutionnaire de la Révolution, c'est le poignard dans le dos dont parlait Michelet. Mais en même temps, puisqu'il ne veut pas les séparer, et je crois qu'il a raison, un vrai républicain ne peut pas dire « Ah ben moi je ne prends que ce qui me convient, mais je laisse ça, oui évidemment, ça ce sont des choses terribles qu'il faudrait mieux séparer. » On ne peut pas le séparer. Bien sûr, il y a une querelle entre les historiens d'aujourd'hui, entre les plus à droite, style Rénal Séché, et de l'autre côté Jean-Clément Martin, qui tient en effet à rappeler que ce sont peut-être pas des ordres directs de Robert Robespierre, c'est certain. Mais les exactions qui ont été commises, des deux côtés d'ailleurs, sans prendre le discours facile, il y avait du mal des deux côtés. Non, il y a eu des exactions, mais de la part des républicains, elles sont indéniables. Celui qui, dans l'Assemblée, crie « c'est leur gloire », c'est le comte de Maillet. Le comte de Maillet est député légitimiste du Maine-et-Loire, mais en même temps, le comte de Maillet et son château de la Jumelière ont été entourés, pas lui, il n'était pas né, mais ont été entourés de terribles scènes, qui sont des scènes d'une très grande violence, où une partie de la population a considérablement diminué dans cette région-là, à la suite des interventions des colonnes infernales.
J'aime bien votre euphémisation, Madame Salnave de l'Académie française, les interventions. Prenons un exemple. Octobre 1793, les Vendéens sont cernés par combien d'armées républicaines ? N'y en a-t-il pas une supplémentaire qui survient ?
Placé résolument en tête et jouant fièrement les airs de la Révolution triomphante, cette fanfare laisse croire à l'arrivée d'une nouvelle armée jacobine. À la Loire ! La panique s'est emparée des arrières de l'armée vendéenne, qui n'a plus que le fleuve pour repli, et qui retraite en désordre, avec une foule de civils, mais non sans emmener ses blessés, nombreux. 80 000 Vendéens, dont guère plus de la moitié de combattants. Le reste, ce sont les femmes, les enfants, les vieillards, population terrorisée, et qui devra passer le fleuve en 24 heures, avec seulement 25 barques.
Nous nous rendîmes à Beaupro, et dans la même nuit à Saint-Florent, où nous passâmes le fleuve le 18 octobre. Avec bien de la peine, n'ayant ni pont ni bateau, j'ai passé mon cheval à la nage.
Dans ces conditions, que faire des prisonniers? Pourquoi ne pas les fusiller comme le font toujours les Bleus?
Que faire des prisonniers? C'est une question du téléfilm Les Vendéens de Jacques Dupont. Le grand chef vendéen lui-même est mortellement blessé ce jour-là, c'est Bonchamp, et il va donner l'ordre de laisser saufs, voire libres, les prisonniers républicains.
Bonchamp était assez jeune, il avait 37 ans, quelque chose comme ça. Il n'était pas un adversaire farouche de la Révolution, mais petit à petit s'était laissé convaincre par ce mouvement paysan, que je t'appellerais plutôt qu'une insurrection. Au départ, c'est un mouvement qui refuse la conscription, des paysans qui voudraient acheter, pauvres, qui voudraient acheter des terres. Et petit à petit, évidemment, l'aspect religieux va l'emporter, à cause de la constitution civile du clergé. Mais au XIXe siècle, l'Église va réinterpréter comme uniquement religieuse et royale cette insurrection, ce qui n'est pas le cas. Mais revenons à Bonchamp. Bonchamp est mortellement blessé, mourra peu de temps après. Il décide de faire grâce aux prisonniers. Et parmi les prisonniers auxquels il fait grâce se trouve un général, David, dont le fils sera l'immense sculpteur David d'Angers. Et David d'Angers, pour sceller dans le marbre cette beauté de la grâce aux prisonniers, a conçu un monument, qui est la statue d'un guerrier mourant, monument à Bonchamp, qui est dans l'église de Saint-Florent-le-Vieil, et en dessous du monument, on lit « Grâce aux prisonniers ». Mais surtout, sur le monument, on lit un cartel qui a été imprimé, qui est posé sur le monument. Très étonnant dans une église catholique, c'est un texte d'Aragon, qui n'était pas le plus assidu dans les églises catholiques. Parce qu'Aragon a écrit un très beau texte là-dessus, pour dire, effectivement, ici, le vent républicain soufflait avec violence, il s'est heurté à cette résistance, mais ce peuple-là était capable de concevoir quelque chose de plus, il écrit 156, quelque chose de plus qui est la possibilité qu'un général vendéen fasse grâce aux prisonniers républicains, et qu'un républicain rende hommage à un Vendéen.
Mais parcourant avec votre petite auto, pas si petite que ça, les Mauges et le Segréen, vous voyez partout, vous aimez ça très modérément, des églises néo-gothiques, des églises romano-byzantines qui ont été reconstruites par l'Église qui tentait de reconquérir le territoire et qui parvenait avec l'aide des châtelains. On a cité le comte de Maillet, vous citez beaucoup d'autres familles nobles. Ces châteaux, ce sont aussi des châteaux du XIXe siècle qui essayent de reconstituer une sorte de Moyen-Âge idéal.
Exactement. Il y a à partir de la Restauration, c'est-à-dire à partir de 1816, disons en gros, au moment où la monarchie est rétablie en France, il y a une puissante contre-réforme catholique, comme il y avait une contre-réforme après les affrontements des guerres de religion entre catholiques et protestants, qui va couvrir ce Maine-et-Loire, mais aussi d'autres régions de l'ouest de la France, de 250 ou 300 églises surdimensionnées, d'ailleurs au point qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi en faire, et de temps en temps, on en démolit une, ce qui fait crier tout le monde. Sur le plan architectural, tout le monde est d'accord, elles n'ont pas grand intérêt. Elles sont même, franchement, souvent assez laides. Elles sont un symbole. Mais il n'y a pas que des églises, il y a des croix de mission, des grottes de Lourdes, à partir de, évidemment, un peu plus tard. Et puis, il y a ces châteaux, parce que cette noblesse qui était partie dans l'immigration, qui est revenue après la Restauration, qui s'est réinstallée sur ces terres, qui a retrouvé des châteaux, parfois occupés par leurs paysans, pour pouvoir les leur rendre ensuite, d'ailleurs. Ou bien ils se font construire de nouveaux châteaux, ou bien ils transforment leurs châteaux pour donner une espèce de figure mythique, de figure gothique, souvent, parce que ainsi ils réinscrivent dans le passé, d'avant la Révolution, le temps béni où l'Église et les châteaux et l'État marchaient la main dans la main.
En votre honneur, tout spécialement, Daniel Salnave.
Entre nous de la République, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Marchez, marchez, le sang des bleus.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Exercice de remémoration. Daniel Salnave revient dans le Maine-et-Loire, un livre chez Gallimard, l'Églantine et le Muguet. Ça, c'était une Marseillaise des Blancs, le sang des Bleus, rougira nos sillons. Et puis, faisons un pas de côté, allons là où votre père a été instituteur aussi, à Trélazé. Il y était au milieu des années 1930. Là, on chantait vraiment la Marseillaise. Trélazé, c'est une zone d'ardoise. Et en 1855, les ouvriers des mines se révoltent, vous racontez ça très bien, et armés de pétoirs, de tromblons, de poignards, 500 ou 600, ils pénètrent dans la ville d'Angers pour exprimer leurs revendications en chantant la Marseillaise, notre Marseillaise, qui, sous le Second Empire, à ce moment du Second Empire en tout cas, était sous le boisseau.
Absolument. On est dans la période du Second Empire 1855, la période où va s'ouvrir, va devenir l'Empire libéral. Les informations ne circulent pas très bien. À ce moment, au même moment, la guerre de Crimée, les ouvriers syndiqués pensent que l'empereur y est resté ou qu'il est plus ou moins prisonnier. Donc, pensent qu'il y a une espèce de brèche qui va s'ouvrir. Et de cette brèche, ils veulent profiter. Et ils s'emparent de fusils et d'explosifs pour des carrières. Et en un long cortège, Trélazé est à quelques kilomètres d'Angers, vers l'est, vers la Touraine, vers le Saumurois, et ils se dirigent vers Angers, et là, ils sont arrêtés sans effusion de sang, et aucun ne sera condamné à mort, mais ils seront envoyés dans des bagnes à Cayenne, etc. Et ce qui est intéressant, on le trouve sur Gallica, je rends hommage à toutes ces numérisations d'ailleurs qui nous permettent de travailler dans des conditions exceptionnelles, on peut lire les réquisitoires du procureur, mais c'est terrifiant, ce sont des vraies bêtes sauvages qu'il faut contrôler, etc. La violence est très très grande. Mais pourtant, eux ont inscrit le nom de Marianne, parce qu'ils ont créé ces clubs révolutionnaires qui s'appellent la Marianne, on est avant la République. Et la Marianne, c'est Alain Corbin qui le fait remarquer, je crois, va prendre ses lettres de noblesse, en quelque sorte, avec la Marianne de Trélazé.
Mais qu'est-ce que c'est que ces carrières et ce travail de l'ardoise à Trélazé? Ça s'est terminé il y a peu. Et en 1964, la radio nationale s'enorgueillissait encore des caractères exceptionnels de l'ardoise de Trélazé.
Monsieur le président des ardoisières d'Angers, l'ardoise est un matériau très anciennement employé pour la couverture, mais elle trouve également un regain d'intérêt avec des formes d'architecture nouvelles.
Elle couvre les toits de France, principalement ceux de Bretagne et de Normandie, également pour une bonne part ceux de la vallée de la Loire, et il en va beaucoup ainsi à l'étranger. Et non seulement les toits sont les toits traditionnels que l'on a beaucoup connus, toits à deux pentes, mais de plus en plus, on voit des formes nouvelles d'architecture tout à fait à l'avant-garde. Il a été dit que le toit est un décor qui fait partie du ciel, mais l'ardoise avec les reflets de rutile, oxyde de titane, ces reflets de rutile qui la font briller au soleil comme briller à la pluie, l'ardoise est non seulement le décor dans le ciel, mais c'est également son reflet.
Autrefois, on extrayait l'ardoise à ciel ouvert.
C'est exact, mais depuis le milieu du siècle dernier, on exploite l'ardoise en carrière souterraine en remontant. Pour atteindre la veine, on commence par creuser un puits, on creuse des collectrices et des plans inclinés, et dans la veine, on ouvre des chambres dans les zones qui sont exploitables. Et ces veines, on l'exploite en remontant par bancs de 2,50 m de haut, en laissant les déchets sous ses pieds.
Bref, Daniel Salnave, du fond jusqu'au toit, c'était un plaisir esthétique.
Ce qui est extraordinaire, c'est un plaisir esthétique, c'est un plaisir éthique, c'est un plaisir tout court que de retourner à Trélazé. D'abord, ça serre un peu le cœur, parce que les anciennes carrières étant maintenant abandonnées, se sont remplies d'eau, ce sont de magnifiques plans d'eau, mais tout est très noir à cause du schiste qui les entoure, et puis des chevalements de mines qui sont toujours là, c'est-à-dire ces espèces de tours qui permettaient d'installer la poulie qui faisait descendre les hommes au fond. Mais surtout, c'est parce que Trélazé, c'est un laboratoire à tout point de vue, et qui nous fait comprendre beaucoup de choses de la France d'aujourd'hui. C'est le laboratoire sûrement des premières Marianne révolutionnaires ou pré-républicaines, c'est un laboratoire aussi de l'anarcho-syndicalisme, qu'on prend tout le temps pour un mouvement de fous qui va dans tous les sens, qui est loin loin d'être le cas. L'anarcho-syndicalisme souffre beaucoup d'avoir été systématiquement attaqué par le marxisme comme socialisme à la française. Or, c'était un socialisme magnifique. Et il y a des figures splendides. Louise Michel, par exemple, qui est venue rencontrer, toute malade qu'elle était, est venue voir les ouvriers carriers de Trélazé. Puis le troisième laboratoire de Trélazé, c'est un laboratoire de l'intégration d'immigrés. Parce que les carrières de Trélazé ont employé pendant longtemps des immigrés, tout de suite même. Les Bretons au départ, vous me direz, oh ben, ils venaient pas bien loin. Si, en un sens. Ils venaient avec une autre langue. Ils venaient presque avec une autre religion, car ils étaient beaucoup plus catholiques que les ouvriers des ardoisières, qui étaient très frondeurs. Ils venaient avec d'autres manières de se nourrir. Ils faisaient des galettes, ils buvaient du cidre. Là-bas, on buvait du vin blanc et on mangeait des poissons de la rivière ou du fleuve. Donc, ils se sont heurtés à une opposition des ouvriers de Trélazé, et même de la population. Ils ont eu les plus mauvais emplois, au fond, ou bien dans les endroits où c'est le plus dur. Il faut remonter, comme le disait le président des ardoisières, il faut remonter ça du fond, souvent à dos d'homme. Et petit à petit, se sont intégrés comment? Par la lutte syndicale et parce qu'il y avait du travail.
Oui,
suivez mon regard.
Oui, je vois bien que vous parlez d'aujourd'hui, mais vous questionnez constamment, pendant votre voyage, la République, que vous écrivez sans majuscule. Est-ce qu'elle a été capable, à Trélazé par exemple, de donner des solutions à la question sociale? S'en est-elle, sous la troisième, beaucoup ou très tôt préoccupée?
Il est clair que quand Jaurès dit « La République, ce sont des institutions, mais la République ne sera achevée que quand ce sera la sociale ». La sociale, c'est un terme, ça fait peur, c'est les rouges, ils vont tout prendre, tout détruire. Non, la sociale, c'est la dernière étape. Et la République, au XIXe siècle, à plusieurs reprises, se heurte à ceux qui veulent faire d'elle la sociale. C'est 1848, février, tout va bien, tout le monde, il y a beaucoup de gens sont d'accord avec la République. Juin 48, les ouvriers sur les barricades, c'est fini. Les barricades, on les écrase. La Commune en 1870. Donc, la République se construit comme République bourgeoise et non pas la sociale. Juste une anecdote. Au moment de la mort de Victor Hugo, 1883, quel jour on va mettre ses obsèques nationales? Ouh, pas un dimanche. Un dimanche, les ouvriers pourraient venir se rassembler en masse. On va mettre un jour de semaine. Ils sont dans les usines et les fabriques, on aura la paix. C'est un signe tout de même. Alors ça, c'est un des aveuglements de la République. Et le deuxième, c'est l'aveuglement colonial.
Alors, on s'est demandé dans Le Monde, par exemple, beaucoup de journaux rendent compte de votre livre « L'Églantine et le Muguet », pourquoi est-ce qu'elle parle, lorsqu'elle est dans le Maine-et-Loire, de l'Algérie? Eh ben, c'est que vos pas vous ont mené au château du général de Bourmont. Le général de Bourmont, c'est celui qui a commencé, en 1830, la conquête de l'Algérie. Ça vous a pas réussi, le château de Bourmont? Vous vous êtes étalé?
Oui, ben, parce que moi, quand je suis devant des j'ai des commotions historiques, un peu partout. J'en ai eu sur la Place Rouge, ou... forcément, parce que quand on ou dans des goulags, que sur le site des anciens goulags, on a de telles puissances d'hallucination qu'on regarde plus à ses pieds. Et à Bourmont, évidemment, je me suis étalé en n'ayant pas vu une racine, c'est certain.
Et non loin, la terre de Pontron, qu'aménagera le général de Lamoricière, autre grand artisan de la pacification de l'Algérie, que l'on entend ici, discutant avec de plus jeunes officiers que lui, sur place.
Bienvenue dans ce beau pays où il y a tant à faire. Venez avec moi, je vous explique la situation. Nous occupons les ports d'Alger, de Beaune et d'Oran. Au départ, nous avions l'intention de nous contenter de l'occupation de cette façade maritime.
Comme les Turcs.
Ce n'est pas tout à fait ce que nous avons constaté depuis notre arrivée, mon colonel. Nous menons clairement une guerre de conquête et d'extermination contre les Arabes.
Je sais. Certains journaux parisiens écrivent même que nous sommes devenus plus barbares que les barbares. Hélas, c'est vrai. Mais à qui la faute?
Abdelkader a brandi contre nous le drapeau de la guerre sainte. Il a juré de nous jeter à la mer. Bujou arrive à Oran la semaine prochaine avec pour mission de rechercher la paix avec Abdelkader.
Une des chansons qui resta parmi les plus populaires en France jusqu'aux années 1960, et qui témoigne d'ailleurs d'une sorte d'accord de toutes les tendances de la population sur l'Algérie. Parce que Bourbon, c'est un légitimiste, la Mauricière, c'est un orléaniste. Bon, Bugeaud, il veut bien une république d'ordre, avec des soldats laboureurs installés en Algérie. C'est ça qui est formidable, dites-vous, au sens premier du mot.
Alors, évidemment,
qui
la
fait
casquette...
peur, l'accord de oui. toutes les tendances que vous avez vues dispersées en puzzle dans le Maine-et-Loire sur l'Algérie.
Juste un mot encore tout de même sur Bugeaud, la casquette c'est vrai, c'est pittoresque, ça nous fait sourire, mais moi ça me fait pas sourire au fond, parce que sans doute fallait-il le rendre sympathique au pauvre gars qui, dans un uniforme extrêmement mal conçu, devait pacifier des tribus peuplées par des hommes qui étaient à peu près aussi pauvres qu'eux, et des paysans aussi comme ils étaient eux, les soldats. Donc ça c'est encore une des mystifications des guerres coloniales. Et quant à Bugeaud, c'est quand même l'enfumeur Bugeaud, c'est quand même celui qui a inventé la technique, quand un village lui résiste, on met les villageois dans une grotte, on bouche avec des branches, et on met le feu. Et après, quand le feu est éteint, la fumée a fait disparaître toute trace de vie à l'intérieur de la grotte. Bien. Les enfumades de Bugeaud, d'ailleurs, ont inspiré, et là je rejoins votre question, des généraux républicains qui, sans état d'âme, ont continué la pacification de l'Algérie. Il n'y a pas la conquête en 1830 et la guerre en 1954. Il y a entre 1830 et 1954 une continuité de la pacification qui commence par un mensonge de la Mauricière, une traîtrise. Il promet à Abdelkader de le laisser rejoindre à Damas, un lieu où il veut s'enfermer dans la prière et la méditation, et on le colle en prison, pendant à Pau puis à Amboise. C'est certain. Mais il est vrai que la République d'ordre et les monarchistes, puis légitimistes, puis orléanistes, se sont passés le flambeau sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation, comme si, et ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappée quand j'étais encore très jeune, comme si les grands idéaux de la République, avec ou sans majuscule, liberté, égalité, fraternité, s'arrêtent, on traverse la Méditerranée et tout d'un coup ils ne sont plus valables. C'est quand même une grosse question. Et n'oublions pas non plus que si Bourmont accepte la mission d'aller conquérir la régence d'Alger, c'est pas pour installer du commerce ou des comptoirs, c'est pour conquérir, rendre cette terre à la civilisation. Ah bon? Elle est plus à la civilisation? Non, monsieur, car elle est turque. Et les Turcs tiennent les Arabes en suggestion. On va libérer cette terre des Turcs, on va la rendre à la civilisation. Qu'est-ce qu'on entend par civilisation? On va la rendre à la chrétienté. Toutes les proclamations autour de Charles X, on va conquérir l'Algérie pour en refaire une terre chrétienne. Ben, tout ça, ça ne peut pas c'est totalement oublié. Ou si c'est oublié, je veux pas qu'on l'oublie, moi. Je veux qu'on le rappelle.
Les Angevins catholiques et les Angevins républicains, il pouvait y en avoir quelques-uns, étaient donc d'accord sur le rôle de la religion dans la conquête républicaine de l'Algérie. Bon, on comprend pourquoi la République, vous l'écrivez maintenant avec une
les lois de minuscule. 1905, on les applique pas. La séparation de l'Église et de l'État, on l'applique pas en Algérie, ou surtout pas.
Dites-moi, vous citez Victor Ségalène au début de votre voyage dans le Maine-et-Loire. Aimer le passé, c'est un chemin de joie, plutôt un chemin d'interrogation, non ?
Oui, c'est un chemin de joie. Pour
quand
moi,
même.
Oui, bien évidemment, c'est un chemin de douleur aussi, c'est-à-dire redécouvrir des scènes qu'on regrette et qu'on n'a pas suffisamment, dont on n'a pas eu conscience assez tôt, c'est certain. Mais c'est quoi la joie ? C'est de retrouver des figures absolument admirables, souvent anonymes. Quand j'évoque la figure d'un anarcho-syndicaliste comme Ludovic Ménard, né en 1855, l'année de la Marianne, il a une bonne balle en plus, avec ses grandes moustaches
très
et
lasé,
ses mains de carrier, eh bien je suis très ému. Et quand je dédie mon livre au premier préfet républicain Maine-et-Loire, Grégoire Bordier, un homme magnifique, qui a peur, c'est certain, de la sociale. Il a peur des excès de la sociale. Bon, personne n'est parfait, mais c'est un vrai républicain. Il a laissé une correspondance magnifique. Je suis très fier que mon Anjou natal ait des grandes figures républicaines.
Et
elles sont plus
d'une. Il y a même, Daniel Salnave, des églantinards d'honneur, je ne sais pas, des prêtres ouvriers.
Ah bah bien sûr, il y a deux prêtres ouvriers et le curé de Trélazé. L'abbé Jolec, qui est curé à Trélazé, il défile avec le Front Populaire, il est déplacé par son évêque. On l'envoie dans un autre village où pendant la guerre il y aura un camp de tziganes, il va s'occuper des petits tziganes, il sera déplacé de nouveau. Abbé Jolec, je vous salue.
Donc, il faut prendre avec précaution, c'est la grande tradition anarcho-syndicaliste, les hiérarchies, quelles qu'elles soient.
Et comment ?
Daniel Salnave, votre livre, L'Églantine et le Muguet, aux éditions Gallimard. L'émission a été préparée par Franck Olivard et Lara Gladonne, avec à la réalisation Sonia Leglen et à la technique Clément Vuillet.